2034, journaux de la quatrième année après le grand krach, de Jean-Yves Bouchaud. Premier chapitre, le village. Journal de Nasser Alabar. Aujourd'hui, dimanche 12 février 2034, 6h du matin, heure solaire, heure normale. Notre morale n'est pas au beau fixe. Les réserves tiendront-elles jusqu'au printemps ? Et la mort de notre ancien nous affecte, car c'est bien grâce à lui qu'ici, au village, nous sommes tous encore en vie. Lors de la réunion d'hier, ce sont les plus âgés d'entre nous qui semblaient les plus découragés. Il est vrai qu'ils ont connu une situation tellement meilleure. Ils ont désormais abandonné le rêve de voir un jour leurs petits-enfants profiter d'un bien-être équivalent à celui qu'ils ont connu. Pourtant, n'est-ce pas notre génération, celle intermédiaire, qui est en train d'offrir le plus grand des sacrifices? Celle qui a déchanté en pleine force de l'âge et pour laquelle on a condamné toutes les issues? Les survivants que nous sommes ont dû tout réapprendre, et nous avons réappris, mais nous avons tant à apprendre encore. Avec le recul, nous ne cessons de nous traiter de naïfs. Cette semaine, est-ce dû à l'hiver qui n'en finit pas? Les échanges ont été vifs. J'ai dû, à maintes reprises, calmer les esprits, appelant les intelligences à se rendre maîtresses des émotions, répétant que nous devions nous concentrer sur le présent plutôt que de nous laisser aller à ruminer un passé révolu. Les tâches de culture et de construction en cours ont permis de pacifier notre groupe. La nécessité de coordonner nos gestes pendant les travaux, le froid, la fatigue du corps, tout ça nous a bien calmés. Bien heureusement, il n'empêche. Étroitement carapassonnés dans un cynisme froid, enfin désabusés, nous pensions avoir dépassé un cap. Et pourtant, nous avons vu ressurgir au fil des discussions cet écœurement que nous croyions avoir laissé derrière nous. Cette amertume qui nous tire à hue et à dia, qui nous entraîne à la moindre difficulté vers une dépression stérile. Des larmes ont même jailli chez quelques-uns, des larmes d'impuissance, des larmes de colère. Parce que c'est une immense colère qui nous habite encore. Toujours les mêmes interrogations ressassées. Comment avons-nous pu être si crédules, obéissants électeurs, offrant sagement notre confiance et notre avenir à des politiciens ramollis qui en avaient oublié jusqu'à la définition même du mot « courage ». Nous les avons portés au pouvoir, espérant que le second serait plus efficace que le premier et le troisième plus que le second. Comment avons-nous pu rester si candides alors que tout nous poussait inexorablement vers le précipice ? Dès la première décennie de ce siècle, tout nous y entraînait déjà, à la manière d'un torrent de lave qui dévale impassiblement les pentes du volcan et dévore toute vie sur son passage. Nous l'avions vu arriver. Mais, aveuglés à valeur de promesses, nous attendions béatement que la cavalerie des intelligents au pouvoir et aux affaires vienne nous sauver. Il ne s'est rien passé. La poussière de leurs chevaux nous a juste indiqué qu'ils avaient pris la fuite, nous abandonnant à notre sort. Avons-nous résisté quand il était encore temps? Non. Si, tout de même, puisque nous avons unanimement protesté et réclamé la restitution de nos droits, après avoir constaté que nous étions en train de perdre les derniers. Nos espoirs trahis s'empilaient les uns sur les autres depuis si longtemps déjà. Quand nous nous sommes enfin rebellés, que valaient nos molles protestations? Nous avons défilé, naïvement, brandissant nos pancartes inoffensives et absurdes, braillant notre colère à destination d'oreilles absentes. Nous sommes toujours restés polis. Je me souviens de quelques-uns qui, dans les années 20, en ordre dispersé, avaient crié plus fort que les autres. Les nantis, qui s'étaient emparés depuis deux décennies déjà des réseaux sociaux et des moteurs de recherche, n'eurent alors aucun mal à les faire taire. Big Brother, Facebook, Google en connaissaient tellement plus sur les activités des individus qu'eux-mêmes n'avaient de mémoire de leur propre histoire. Il n'a pas été difficile d'éliminer ceux qui osaient contester le bien fondé des agissements de telle ou telle multinationale. Il a suffi de mettre en ligne le contenu de leur vie privée, de l'inventer, si besoin était, pour les discréditer auprès du public. Il ne restait plus alors aux récalcitrants que la possibilité de se débattre et le souci de se blanchir. Je l'ai souvent écrit dans ce journal et je le réécrirai. Dès notre enfance, le monde que l'on nous a présenté n'était qu'illusion, et nous nous sommes livrés par mollesse au pouvoir des illusionnistes. Nous n'avons pas bronché parce que nous avons été paresseux. Nous nous cramponnions précautionneusement au reste de nos acquis, qui se délitaient pourtant irrémédiablement, en nous obstinant à croire que ça irait mieux demain. Les grands bonimenteurs, qu'ils soient de bellâtres politiciens ou de sournois économistes, ont toujours su, médiatiquement, très bien parler. Ces gens, si bien habillés de costumes et de bonnes intentions, ont même fini par se persuader eux-mêmes que les belles paroles qu'ils nous livraient, suintantes de fallacieuses espérances, étaient prophétiques. Ils ont ainsi réussi à maintenir le bon peuple en léthargie. Car nous avons gogo, gobé tous leurs mots, comme des oisillons mendiant leur béquet. Nous avons cédé à la paresse en nous laissant hypnotiser par les belles images et les promesses bien alignées que diffusaient les médias. Il nous semblait inimaginable que les hommes intelligents qui possédaient les leviers de l'industrie, du commerce et de la finance laissent filer leurs paquebots vers les chutes du Niagara sans réagir. Et pourtant, ils l'ont fait. Et dire que ces mêmes irresponsables ont réussi à nous faire croire pendant plus d'un siècle que la seule réponse à notre quête de bonheur se réduisait au monde qu'ils nous proposaient. Et voilà les réflexions, les vociférations plutôt, que nous avons rabâchées hier soir, ponctuées de « quel malhonnête, quel salaud !» et à notre intention de « quels abrutis !» autour d'une vieille liqueur de prune dans la salle du conseil. Ce sont les grandes villes qui ont le plus souffert, les banlieues qu'on a abandonnées à leur pauvre sort, les centres plus encore. Le réveil a été brutal. Qui aurait pu imaginer qu'en l'espace de quelques semaines, l'économie occidentale allait s'effondrer d'un coup? Nous nous sommes fait la réflexion que notre localisation rurale nous avait préservés d'une mort certaine. Hier, Lucas s'est aventuré jusqu'en lisière du bourg, à 4 kilomètres d'ici. Il a rapporté que c'était encore pire que le mois dernier. Une descente de pauvre air venant de la banlieue a sans doute dérobé encore une fois la maigre subsistance des autochtones. Les habitants affamés qui survivent se terrent dans les caves, barricadés, réduits à l'impuissance. Que pouvons-nous y faire? Les sauver serait nous détruire. Combien en reste-t-il à Saint-Laurent et dans le canton de Chantosseau? Combien ont survécu? Peut-être 1000 sur les 20 000 que comptait la population. Combien en restera-t-il dans 6 mois? Notre petit village tient bon, n'est-ce pas l'important? Clandestin, protégé dans son cocon, à l'abri du regard inquisiteur des prédateurs. Subvenir à nos besoins, voilà le défi de chaque jour. Se soucier de chaque bouche à nourrir, voilà l'enjeu principal, et nous nous défendons bien. Ironiquement, c'est parce que l'un de nous n'aura plus besoin de nourriture qu'un voile de tristesse est venu recouvrir notre village. François n'est plus. Je me sens particulièrement affecté, au moins autant que le jour où j'ai perdu mon père. Mais il nous faut penser au présent, à notre village abritant miraculeusement 45 personnes de 2 à 78 ans. Ici, nous sommes protégés, nous survivons. En réalité, nous faisons mieux que survivre, puisque nous arrivons régulièrement à nous sentir heureux. Heureux de nous laisser embrasser par cette nature qui nous enserre de toutes parts. Heureux de boire les rayons diffus du soleil qui perce au travers des frondaisons. Heureux du silence troué par le chant des oiseaux, heureux d'être là, d'être ensemble, de travailler pour un improbable avenir. Nos enfants verront-ils quelque chose d'autre que cette forêt qui nous entoure? Aujourd'hui, ce sont les outils qui nous manquent. Pour le métal, un bon soufflet de forge rendrait bien des services, mais ne rêvons pas, ce matériel est introuvable. Il n'existe plus depuis longtemps, il nous faudra le confectionner nous-mêmes. Pour le travail du bois, notre matière première, des haches, des scies, des rabots, des gouges, ah, ce mot, je ne connaissais même pas son existence l'année dernière, des gouges. Il nous faudra refaire des descentes dans les ateliers désaffectés des artisans de la région. Important aussi, voire indispensable, il faudra que nous nous procurions une turbine à adapter à la sortie du trop-plein de l'étang en contrebas de la digue. Et puis deux générateurs, des alternateurs à aimant permanent seraient l'idéal, au dire de Clovis. Le premier pour transformer l'énergie de l'eau en courant électrique, le second pour remplacer celui de la troisième éolienne qui vient de nous lâcher. Cela va nous coûter un max. Nous allons devoir troquer au moins un porc de 100 kilos, des poulets et une bonne part de nos réserves de céréales. Mais nous avons besoin de ce matériel. S'aventurer dans le monde extérieur nous oblige à éviter le moindre faux pas. Se faire oublier n'est pas suffisant. Nous ne devons laisser aucun indice qui mènerait à notre village. Garder impérativement la première de nos règles, plus aucun contact avec le monde extérieur, exception faite des impératifs liés à notre survie. Si l'on nous croise, on repérera vite que nous sommes bien nourris, et par les temps qui courent, cela signera notre arrêt de mort. Qui vais-je envoyer ? Les villageois cachectiques ne seraient pas soupçonnés, mais par bonheur, nous n'en avons plus ici. Il faut des gens aguerris, qui ont bien connu la ville. De toutes les manières, ils risqueront leur vie. La proposition doit se faire en conseil. Je vais le convoquer pour 10 heures. Avant de refermer son cahier, Nazer à la barre relut une dernière fois les mots qu'il y avait couchés. Petite lettre penchée, tenant toutes dans l'espace délimité par les lignes, ordonnant la feuille au petit carreau de 5 mm de côté. Aucune ne dépassait, pas même la grande boucle des L majuscules. Les caractères ainsi formés par habitude, recroquevillés sur eux-mêmes, semblaient protéger leur existence de toute manifestation extérieure, comme le faisaient les habitants du village dont Nazer à la barre était l'élu. Le timonier, comme ils avaient pris l'affectueuse habitude de l'appeler, en faisant référence à son nom de famille et en jouant sur les mots. Le jour se levait. Il sortit de la basse maison de pierre en penchant la tête pour éviter de la cogner à son linteau. Ici, tout était bas. Tout semblait s'enfoncer dans la terre. Les maisonnettes qui formaient le cœur du village avaient plus d'un siècle d'existence. On avait agrandi leur rez-de-chaussée. Il n'y avait aucun étage au village. En leur accolant des murs montés de parpaings afin de doubler leur surface et de permettre d'accueillir les familles les plus nécessiteuses. Les pignons, recouverts de vigne vierge et de lierre, ne dépassaient pas les 3,20 m de hauteur. Tout semblait se fondre dans la nature. Les sentiers eux-mêmes, étroits, savamment enherbés de fétuques et de régranins, évitaient les dessins rectilignes et distribuaient les habitations en composant des courbes improbables. À part le petit bâtiment situé près de l'étang, tous les foyers se trouvaient là, regroupés, presque recroquevillés les uns contre les autres, abrités sous la futaie clairsemée, trop clairsemée. C'était l'hiver que le danger était le plus grand. Les feuilles n'avaient pas encore recouvert de leur vêture les arbres caducs qui dissimulaient trop peu les signes de vie, pourtant réduits au minimum. Tout reposait sur la discrétion. Ils n'étaient pas assez protégés d'une possible curiosité aérienne. Les toits recouverts de genêts, de branchages et de feuilles mortes feraient-ils longtemps illusion ? La dernière fois qu'un engin à moteur les avait survolés, ils n'avaient pas été repérés. Mais c'était au début de l'été dernier, au cours des semaines où le feuillage des arbres était le plus dense et couvrait la totalité du village. Nazer s'assura d'un coup d'œil qu'aucune fumée ne trahissait leur présence. Satisfait, il se fit la réflexion qu'en ce 4e hiver après le grand crack, il devenait de plus en plus performant. Le choix des bois, du charme et du frêne, du bois de chêne à condition qu'il soit très sec. Les poêles, les ventilations, les longs conduits d'évacuation, ils avaient enfin réussi à rallier confort et sécurité. D'un pas souple, il traversa le village encore endormi. Il franchit un mur de fougères qui en marquait la lisière, avant d'arriver devant une petite porte grillagée qui ne semblait servir à rien d'autre qu'à signaler au marcheur l'entrée dans un espace différent. Il la poussa doucement, déjà recueillie. C'était bien là qu'il voulait se rendre avant d'entamer la journée et la réunion du conseil. Le cimetière reposait tranquille, entouré d'une clôture composée d'échalotes châtaigniers espacés, reliés entre eux par un tressage d'écorce. Une vingtaine de tombes s'alignaient, petits dômes de terre et de pierre, surmontés pour quelques-uns d'une croix de bois et pour beaucoup d'autres demeurant nus. Il se recueillit devant la plus récente, celle qui avait reçu la veille le corps de l'ancien. L'ancien, au corps sec et noueux comme ses pieds de vigne, qui les avait quittés dans sa 89e année. Il était né le 8 mai 1945, jour de paix par excellence, dans le village où il avait vécu toute sa vie. Il en était resté le seul habitant pendant 16 ans, jusqu'au printemps 2029, où Nazaire, pressentant sans bien le comprendre, le grand krach qui allait se réaliser l'année suivante, l'avait rejoint. Le timonier précédait ainsi de 2 mois l'arrivée de Lucas et de sa famille. Sur la tombe du vieux paysan, on avait planté le grand crucifix qui avait trôné sa vie durant dans sa cuisine au-dessus du manteau de la cheminée. Cloué sur son pied, un petit écriteau, habilement gravé, révélait le nom du défunt, François Ferrières. Cherchant à marquer son respect, Nazaire fit le premier geste qui lui vint à l'esprit. Il ôta son bonnet. Il lui devait tant. Et pas que lui. Les survivants d'ici lui devaient tout. C'était François qui les avait accueillis chez lui, dans son village à l'abandon, tous, les uns après les autres. De lui, ils avaient hérité la survie, car patiemment, et pendant 4 années, François Ferrières leur avait transmis son savoir-faire, le travail du bois et des métaux, l'élevage des animaux, la culture du sol et les subtilités de la pêche. Sans lui, ils seraient tous morts. « Merci, François, que le Dieu auquel tu croyais tant t'accueille s'il existe. Si je le rencontre un jour, je témoignerai pour toi, mais tu n'en auras pas besoin. » Une larme coula sur la joue de Nazaire, de tristesse. Puis l'exaspération prit le dessus. Pourquoi n'avait-on pas écouté tous ces hommes, tous ces François Ferrières, qui ne prêchaient que la vie simple et le partage? Il se fit la remarque que lui non plus, jusqu'en 2029, ne les avait pas écoutés, ou de temps à autre, si peu. Avant le grand krach, il lisait pourtant avec intérêt les articles livrés sporadiquement à quelques magazines posés sur le guéridon des salles d'attente, toujours connecté, l'oreille attentive aux messages de ces prophètes d'un autre temps. Il avait hoché la tête pour livrer son assentiment à leur idéologie transparente. Avec les années, il les avait mieux compris, qui parlaient de partage, de respect de la terre nourricière, de répartition des richesses, de sobriété, de bonheur écologique. Pourtant, systématiquement, regardant sa montre, il s'était rappelé à la réalité. Il allait être en retard à son poste de travail, au guichet du Crédit Agricole. Il lui en avait fallu du temps. Mais il avait fini par être convaincu, et il avait réussi à s'extraire de l'ancien monde en voie de perdition avant les autres. Il avait rejoint François au milieu des bois, juste quelques mois avant le chaos. Sa génération, encombrée de molles habitudes, endormie par les refrains d'un discours au modernisme obligatoire, n'avait en réalité rien fait pour échapper à la trajectoire qu'on lui avait concoctée. Elle s'était coulée dans les habits que la génération précédente lui avait préparés. Petits soldats, ordonnés et sages, il n'avait pas bronché. Et pourtant, il n'avait rien reçu de ce 21e siècle qui les avait vus grandir, rien de vital. 3 décennies emplies d'un vide sidéral, dédié à l'argent et au monde illusoire et médiatique du paraître. 30 ans où il n'avait rien fait d'autre que désapprendre. Que nous avez-vous légué, générations égoïstes ? Nazaire se reprit une nouvelle fois, si tout avait continué ainsi. N'aurait-il pas persisté, lui aussi, à se lever dans la mouvance des précédentes générations, dans une volonté de croissance à tout prix, dans le désir insensé de profit maximum? Sa génération n'aurait-elle pas, à l'identique de l'ancienne, grâce insensible et sans scrupules, accaparé les richesses et écrasé la tête des pauvres du tiers-monde? Sans plus réfléchir, sans penser aux autres, sans penser à rien d'autre qu'à gagner toujours plus. Ce krach terrible n'était-il pas en fait une bénédiction? Il chassa vite cette pensée de sa cervelle. Le désordre qui s'en était suivi avait engendré de telles horreurs. La mort avait avalé tant de familles humaines, des millions, hommes, femmes, enfants, détruits par la guerre civile, décimés par la folie fratricide qui s'était emparée des populations. Et les survivants, desséchés par la faim, ce krach les avait plongés dans le cauchemar. Mais un cauchemar dont il était impossible de sortir, puisqu'il était la réalité. Un cauchemar vrai, une terreur sans réveil. Tout cela parce qu'ils avaient consenti à se bercer d'illusions. « Encore et toujours l'illusion !» s'exclama Nazaire à haute voix. Il n'absolvait pas le peuple des classes basses et moyennes dont il faisait partie. Ce peuple avait sa part. Ils avaient tous leur part. Hypnotisés par les riches et les puissants, rêvant de gagner au loto, tous avaient désiré intégrer la famille des nantis. Tous étaient coupables d'avoir consenti au repli léthargique de l'égoïsme ordinaire. On leur avait fait croire tant de choses, et ils y avaient cru. Les jeunes générations, les plus niaises, la colère de Nazaire l'empêchait de poser la moindre nuance. C'était elles qui s'étaient les plus fourvoyées, éblouies par des modèles phallos, attirées par la lumière des écrans, comme le sont les papillons tournant autour d'une ampoule. Les gloires qu'elles avaient adorées, des abîmes d'insignifiance. Comment avaient-elles pu s'engouffrer dans une telle vacuité, gaspiller tout leur temps dans de dérisoires réseaux n'alimentant que des simulacres de communication? Elles avaient célébré jusqu'à l'abrutissement des gourous androgynes, éclairés par les lumignons médiatiques, parés comme des pans de discours narcissiques. Elles avaient rebondi au gré des modes, se ruant toutes ensemble sur les sucettes aux valeurs édulcorées qu'on leur tendait. Elles n'avaient jamais grandi. Le cœur de Nazaire s'emplit soudain de compassion à la pensée de tous les jeunes visages qu'il avait connus, mais qu'il ne reverrait plus. Ces adolescents, à peine nés, déjà engloutis. On ne leur avait jamais transmis le moindre réflexe de survie. Ils n'avaient pas subsisté plus que quelques semaines au grand krach, subissant le déferlement des plus forts, déchirés par les crocs des plus méchants. Nazaire se sentit infiniment triste pour eux, pour leurs milliers de vies gâchées. Personne ne les avait vraiment éduqués, personne ne leur avait appris à vivre, et ils n'avaient pas vécu. Il ramassa une poignée de terre chargée d'une enivrante odeur de feuilles décomposées. Il la porta jusqu'à ses narines et en respira profondément l'humidité. Voilà la vérité. Cet humus, cette terre belle, odorante et bonne, cette terre d'où je viens et où je retournerai. Il réajusta son bonnet afin de protéger au mieux ses oreilles de la morsure du froid, salua d'un dernier regard reconnaissant la tombe de François Ferrière, puis il sortit du cimetière. Passant devant une masure repérable à son vieil écusson, gravé sur le linteau de granit, il toqua à sa porte. Quelques secondes, puis un homme, la quarantaine, les cheveux ébouriffés, pencha sa tête dans l'embrasure. « Ah, c'est toi, Nazaire. T'es bien matinal. Je n'ai pas vraiment dormi cette nuit. Le départ de François ?» Oui, ça et le reste. Il faut réunir le conseil du village au complet pour 10 heures. Tu veux bien t'en charger? Je lève les enfants et je fais le tour de tout le monde pour prévenir. Nazaire s'apprêtait à tourner les talons, mais insistant, « Lucas, n'oublie pas Clovis à la maison de l'étang. Nous aurons besoin de tout son savoir. »